Radio Okapi.
Vendredi 1er septembre 2023, voici les titres de ce journal de midi sur Radio Okapi. Après les altercations meurtrières qui ont coûté la vie à 43 personnes selon le bilan annoncé hier par le gouvernement à Goma, le procès des adeptes de la foi naturelle djihadique messianique vers les nations est attendu dans les heures qui suivent. Rentrée scolaire 2023-2024, le directeur de la province éducationnelle, Kwilu Hin, s'est dit déterminé à faire respecter les instructions données par le ministre de l'EPST, notamment l'achat des fournitures scolaires au marché et non à l'école. Il attire ainsi l'attention de tous les chefs d'établissement à ce sujet. Notre invité, c'est Alphonse Kabala, chef de projet assistance humanitaire aux ménages sinistrés des inondations dans la ville de Kindu, Maniema. Il nous parle des acquis de ce projet qui est arrivé à sa fin. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Honneur qui vous. À la suite d'altercations meurtrières qui ont coûté la vie à 43 personnes selon le bilan annoncé hier par le gouvernement, sur place à Goma, on apprend que le procès des adeptes de la foi naturelle djihadique messianique vers les nations est attendu dans les heures qui suivent sur un lieu qui reste à déterminer par l'auditorat militaire des garnisons de Goma. Tous sont inculpés pour deux graves chefs d'accusation. Nous allons retrouver dans nos prochaines éditions notre reporter Gabriel Wamenya. Goma toujours, retour au calme et progressif dans les quartiers Kiziba à Nyabushongo, deux jours après les troubles qui ont occasionné plusieurs dégâts humains et matériels. Les activités socio-économiques reprennent timidement, rapportent les habitants. D'après la société civile, les familles victimes des dégâts collatéraux, notamment celles qui ont perdu leur maison incendiée, 8 au total, sont sans abri jusqu'ici. Pendant ce temps, celles qui ont perdu leurs membres de famille organisent des deuils en attendant les dispositions qui seront prises par les autorités pour l'enterrement. En Ituri, pendant ce temps, remise et reprise des engins motorisés entre les groupes armés Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, et le mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri MAPI. Il s'agit des véhicules arrachés à leurs propriétaires par des éléments de ces deux groupes armés lors des diverses embuscades tendues au cours des derniers mois sur l'axe Iga Barrière Mongwalu. La cérémonie de restitution a eu lieu jeudi à Bambou, à 45 km de Bunia, dans les territoires de Djougou. C'est dans le cadre de l'exécution de la feuille de route adoptée par ces groupes armés à Arou après la signature le 1er juin 2023 de l'accord de paix. Martial Kizabiamungu.
Il s'agit de trois véhicules, dont un camion MAN, une camionnette Ulix, une Jeep de marque Toyota RAV4 que détenait URDPC. Ces engins ont été récupérés des forces de main de leurs propriétaires, membres de la communauté EMA sur la route Bambou au début de cette année. MAPI, de son côté, a restitué trois véhicules de marque Toyota Corona arrachés à leurs détenteurs ici de la communauté Lendou sur les tronçons Iga Barrière Nizi. Le général Chirimo Wami, le commandant de la 32e région militaire et représentant du gouverneur des provinces à cette cérémonie, a insisté sur la cohabitation pacifique entre les communautés pour une paix durable.
Ce n'est pas nous qui venons faire la paix, parce que même si nous déployons un millier de militaires, si les Ituriens ne veulent pas la paix, il n'y aura pas la paix.
La MONUSCO regrette par la suite des violences malgré la signature de l'accord de paix signé par ces groupes armés. Léopold Nyoké, le chef de bureau intérimaire de la mission onusienne à l'Ituri.
Nous regrettons tous les morts ainsi que la souffrance infligée aux populations civiles sans défense par les groupes armés d'affiliation communautaire. Qu'aucun crime commis contre les civils en RDC ne restera impuni.
Des retours des bambous au Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, les miliciens candidats au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation déplorent leurs conditions de prise en charge dans les sites de Mambangu, à une dizaine de kilomètres de Beni. Quelques 114 combattants, parmi lesquels des femmes et nourrissons, font face à un manque criant d'eau potable. Ils l'ont fait remarquer jeudi lors de la visite de leur lieu de cantonnement par le coordonnateur principal de l'unité de stabilisation de la MONUSCO et point focal du système des Nations Unies pour le PDDRCS, visite qui avait pour objectif de s'imprégner de leurs conditions de prise en charge afin de mobiliser des ressources pour soutenir le programme. Un reportage signé Sadiki Aboubakar.
Nous sommes ici au camp militaire général Chikoti Tambwe à Mambango. Le site de transit des combattants Mai Mai, candidat au PDDRCS, est en effet érigé en plein milieu d'un camp militaire. Ces combattants partagent donc une même source d'eau avec ces soldats des FARDC. La délégation conduite par le point focal du système des Nations Unies pour le PDDRCS est allée visiter la source d'eau qui alimente non seulement le site de transit, mais tous les camps. Le constat est amer. Il s'agit d'une source non aménagée qui ruisselle sur le pied d'une colline. Cette femme de militaire qui a requis l'anonymat vient d'y passer 6 heures de temps avant de remplir 2 bidons de 40 litres.
Cette eau que vous voyez couler librement du sol, nous l'utilisons pour la boisson, la cuisson des aliments, les bains et autres besoins domestiques. Et quand vous vous baignez avec, vous sentez du châtiment sur le corps et les parties.
Cette femme plaide même pour l'intervention des organisations humanitaires pour sauver des vies dans ces camps. Le chef d'antenne du PDDRCS, Beni, est conscient de cette situation pour ce qui concerne les combattants qui vivent en transit. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Éducation à présent, les fournitures scolaires et uniformes ne seront achetées qu'au marché et non à l'école. Aussi, aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé aux élèves avant la rentrée scolaire. Déclaration du directeur de la province éducationnelle Kwilu 1, Denis Changa Oshanga Kapinga. Selon lui, cela figure parmi les instructions données en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 prévue le 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le patron de l'EPST Kwilu 1 précise que ces instructions sont contenues dans la circulaire du ministre national de l'EPST en date du 4 août dernier à l'attention de tous les chefs d'établissement. Les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés, ajoute Denis Changa Oshanga Kapinga. On l'écoute au micro d'Irene Boma.
Voici ce qui a été arrêté. 1. Que les parents soient libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes, la tenue d'éducation physique au marché de leur choix. J'insiste, au marché de leur choix. On ne dit pas qu'il faut acheter ça dans des couvents ou bien à l'école non plus. On achète au marché parce que c'est là où on trouve qu'il y a diversité de marchandises et quelqu'un va choisir ce qu'il veut. 2. Le frais scolaire doit être perçu obligatoirement en monnaie nationale. 3. Les inscriptions sont gratuites et aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. 4. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale et religieuse ou pour de frais scolaires. Et 5. Aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Chaque chef d'établissement qui va marcher à l'encontre de ces instructions, nous allons prendre des mesures pour qu'il puisse nous trouver sur son passage.
Vous écoutez Radio Kapi à Kampene et à Penemagou dans les territoires de Pangui. Nous sommes dans la province du Maniema. Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, mais les réclamations des salaires des enseignants et les menaces de ces derniers de boycotter cette rentrée scolaire continuent. C'est le cas des enseignants de la sous-division de l'EPST Pangui dans la province du Maniema. Ces derniers, qui sont aussi parents, disent être incapables de préparer la rentrée des classes de leurs enfants. Ils menacent de boycotter cette rentrée. On écoute leur syndicaliste Lukuka Albert au micro de Florence Kizalunga.
Par rapport aux difficultés que nous avons dans notre service, on voit quelque part que cette rentrée est hypothétique suite aux multiples difficultés que nous avons qui ne permet pas que nous, les enseignants, nous puissions arriver à l'opportunité de commencer l'année dans de bonnes conditions. Nous regrettons maintenant, nous arrivons aujourd'hui le 31 août alors que nous n'avons pas encore reçu le mois de juillet et on ne sait pas de quelle manière, chaque fois que nous arrivons là-bas à la Caritas demander, on nous disent toujours au courant de cette semaine. Il n'y a pas de réponse qui sont favorables à notre avantage. Nous prions au gouvernement provincial et national de pouvoir nous accompagner dans cette difficulté qui date de longtemps, que nous avons toujours crié vis-à-vis du retard de paye chronique. Nous allons toujours attendre ici jusqu'à ce que nous serons payés les 2 mois. Nous avons aussi des enfants qui étudient ici à Kindu. Nous avons aussi des enfants qui étudient à Kampene, Kayuyu, à Kama. Comment nous aurons les moyens de pouvoir leur fournir des fournitures scolaires.
À moins de 72 heures de la rentrée scolaire, les écoles de Bukavu au sud Kivu ne sont pas encombrées comme d'habitude par les parents et les élèves qui viennent solliciter les inscriptions. Ces désintéressements s'interprètent de diverses manières dans la ville. Pour certains, la plupart des familles sont dépourvues de moyens financiers pour procurer les fournitures scolaires à leurs enfants. Dans l'une des grandes écoles officielles de Bukavu, l'Institut d'Ibanda, les enseignants chargés d'accueillir les parents et les élèves pour les inscriptions passent des journées entières à se tourner les pouces. Notre reporter Jean Kassami a fait un tour dans ce complexe scolaire, aussi bien que dans des marchés de vente et de fournitures scolaires. Voici son reportage.
Les enseignants qui attendent les enfants à inscrire sont ennuyés de se retrouver seuls sans aucune sollicitation. Même à l'école primaire où la gratuité est appliquée, il n'y a pas d'engouement. Cet enseignant fait partie de l'équipe chargée des inscriptions au complexe de l'Institut ex-Athénée d'Ibanda.
Dans une semaine, on peut inscrire 2 ou 3 élèves. Nous avons au moins 6 écoles primaires. Les gens qui sont commis pour l'inscription sont là, 100 personnes. En tout cas, c'est dans toutes nos écoles, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Certains parents pensent que peut-être il pourra avoir une grève au cours de cette année. Certains d'entre eux n'ont pas encore acheté l'uniforme, voire même le cahier, ils n'ont rien.
La même léthargie est observée dans tous les marchés de vente de fournitures scolaires dans la ville de Bukavu. Les étalages sont bien garnis, mais les clients ne sont pas au rendez-vous. Une maman qui a contracté un crédit pour vendre les fournitures scolaires s'est dit déçue de constater que cette fois-ci, le commerce des objets classiques ne semble lui procurer le bonheur habituel comme les années antérieures. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Vous le savez déjà, cette semaine, de nouveaux juges et magistrats ont été nommés par ordonnance présidentielle à la tête des parquets et juridictions civiles et militaires à travers le pays. Dans les Grands Nord Kivu, ces nominations suscitent la satisfaction chez les acteurs de la société civile dans la région de Beni-Butembo. Encore une fois, Sadiki Aboubakar nous en parle.
De nouveaux juges ont été nommés à la tête des tribunaux de paix de Beni, Butembo et Lubero. Il en est de même des procureurs presse et juridiction. Ici, les nouveaux animateurs sont soit fils du terroir, soit anciens magistrats du ressort qui ont été promus. Le même constat est fait au niveau des tribunaux de grande instance de Beni et Butembo. À Butembo par exemple, le nouveau président est venu du ressort de Goma, mais fils du terroir. Tandis qu'au tribunal de grande instance de Beni, le président nommé est un ancien du ressort. Pas de grand changement du côté de la justice militaire. Les nouveaux animateurs sont entre autres des anciens magistrats promus et d'autres qui n'ont pas été bougés. Ces critères de choix prouvent à suffisance que les nouveaux animateurs de l'appareil judiciaire dans le Grand Nord Kivu n'auront pas assez de difficultés pour exercer leurs fonctions, estime John Kameta, un acteur de la société civile de Butembo.
Nous pensons que c'est bénéfice parce que ce sont des gens qui connaissent bien la coutume du milieu, qui connaissent bien les problèmes du milieu. Si une fois ils se dépassent, ils appliquent la bonne volonté dans leur façon de faire, ils n'auront pas vraiment de difficultés.
Notons que les conflits fonciers figurent parmi les défis à relever par les nouveaux animateurs de l'appareil judiciaire au Grand Nord Kivu. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons dans cette région, précisément dans la ville de Beni, où souvent pour s'attirer des clients, certains habitants jouent de la musique à tue-tête. C'est le cas des lieux de téléchargement de musique, échange de téléphones, des bistrots et même des églises de réveil. Seulement, cette musique jouée en plein air, selon certains spécialistes, équivaut parfois au nombre des décibels que produisent les moteurs d'un avion moyen au décollage. Outre la gêne qu'elle cause aux voisins qui subissent ces nuisances sonores à longueur de journée, il y a aussi un aspect sanitaire avec le risque de paralysie des tympans. Pourtant, une loi contre les nuisances sonores existe en RDC. Pourquoi n'est-elle pas appliquée? Guylaine Kassassia.
Voilà un petit aperçu de ce que certains habitants du quartier Matongi à Beni vivent à longueur de journée. Est-ce que tu le matin pour s'attirer de clients, salon de coiffure, bistrot, cabine, de téléchargement de musique, place devant leurs locaux d'énormes baffles qui crachent de la musique sans tenir compte du voisinage. Et même à Kambi, commerçant à Matongi explique le calvaire qu'ils endurent.
Ces musiques nous dérangent beaucoup. Seulement que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons surtout pas le pouvoir de les leur interdire. Nous pensons peut-être ils ont la permission des autorités. Mais vraiment, pour nous qui travaillons ici, nous n'avons pas le temps de nous concentrer, il n'y a que du bruit.
Mais sont-ils conscients de cette gêne qu'ils occasionnent? Tobiti Kasereka est propriétaire d'une cabine téléphonique au centre commercial de Matongué. Il s'en défend.
C'est vrai.
Nous savons très bien que ce n'est pas bon compte tenu du grand nombre de gens qui nous entourent. Mais il y a ceux qui préfèrent nos musiques, même s'ils sont occupés dans leur boutique pour en tirer consolation et d'autres non. Mais notre métier nous l'oblige pour attirer l'attention de celui qui est même à la 4e avenue.
À Beni, la police dit être régulièrement saisie de cette question. Ce porte-parole dans la ville affirme que des sensibilisations sont organisées pour faire respecter la loi congolaise en la matière. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud est toujours sous le choc après l'incendie d'une très rare violence qui a fait au moins 74 morts et 52 blessés à Johannesburg. Le feu s'est déclaré dans la nuit du mercredi au jeudi 31 août au sein d'un immeuble délabré du centre-ville qui était occupé illégalement. Désormais, les pouvoirs publics doivent s'occuper des familles des victimes et des rescapés tout en continuant d'enquêter. À partir de ce vendredi, les proches des personnes disparues sont invités à se rendre dans l'une des morgues du pays à Soweto pour tenter d'identifier leurs proches.
L'invité.
C'est Monsieur Alphonse Kabala, chef du projet assistance humanitaire aux ménages sinistrés des inondations pluviales et fluviales dans la ville de Kindu, au Maniema. Projet exécuté par l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène, AFPD, durant 4 mois. Arrivé fin projet, Alphonse Kabala nous parle des acquis de ces projets à la communauté de Kindu. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Alphonse Kabala, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, votre association vient d'arriver fin projet qu'elle exécutait dans la ville de Kindu en faveur des victimes des inondations fluviales et pluviales dans la ville de Kindu. On peut savoir les bilans?
Ok, merci beaucoup. Comme vous le savez, avec ce projet d'assistance humanitaire aux ménages sinistrés des inondations pluviales et fluviales dans la ville de Kindu, nous avons juste pris en charge médicalement et gratuitement 4622 ménages à travers 6 structures médicales, dont 4 structures dans la zone de santé de Kindu et 2 structures dans la zone de santé d'Alongouli. Au-delà de ça, et dans le cadre du secteur Wosh, nous avons juste construit 6 forages mécaniques, 3 forages dans la commune d'Alongouli, 1 forage dans la commune de Kasuku et 2 forages dans la commune de Mikelenge. Et nous avons aussi distribué les kits hygiéniques aux femmes et filles en âge de procréation. 1166 femmes ont bénéficié de ces kits. Et nous avons aussi distribué les produits de potabilisation à ces 2166 ménages. Au-delà de ça, nous avons aussi organisé pas mal d'activités de sensibilisation et éducation sur la gestion des catastrophes naturelles et les mécanismes d'alerte précoce.
Vu le bilan et les dégâts qu'a causé le pluie, mais aussi les inondations du fleuve, est-ce que vous pensez que vous avez fait quand même quelque chose de consistant pour cette population?
Oui, parce que comme on a toujours dit que tout ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites toujours quelque part contre moi. Nous, avant de concevoir ce projet, d'élaborer ce projet, nous étions d'abord venus ici et mener des évaluations humanitaires rapides des besoins. C'est sur base des besoins ressentis par la population et que nous avons juste aussi conçu le projet ou la note conceptuelle. Et nous sommes rendus compte qu'à Kindu, il y a un grand problème, un sérieux problème des roches, de l'eau. Donc c'est pour cela qu'il fallait vraiment ériger des forages pour vraiment permettre de servir les gens en eau potable. Vraiment, avec ça, il y a eu beaucoup de cas de maladies d'origine hydrique. Je pense qu'avec les 6 forages que nous avons érigés, ça va juste diminuer les cas de ces maladies diarrhéiques.
Est-ce que vous pensez, vous avez une idée de faire autre chose après, étant donné que la population, à ce qui concerne de l'eau d'ailleurs, la ville de Kindu connaît un sérieux problème d'eau potable. Il y a des endroits où la régie des eaux n'arrive pas, mais pour des quartiers où vous n'avez pas pu penser, mais qui sont aussi victimes des inondations, vous avez pu avoir une idée quant à ça?
Quand nous avons actualisé les évaluations rapides des besoins, en tout cas nous sommes rendus compte qu'à Kindu, il y a vraiment des sérieux gaps. Il y a vraiment des problèmes énormes et c'est un terrain vraiment qui nécessite une assistance. Et je dirais qu'à Kindu, nous sommes presque seuls comme organisation de mise en œuvre. À FPD, nous sommes presque seuls. Et donc c'est pour autant dire que étant une organisation de mise en œuvre, nous avons aussi des partenaires financiers, nous avons des bailleurs de fonds et je pense que partout ils sont en train de nous suivre. ministre. Nous allons juste continuer à élaborer des projets et lancer aussi des cris d'alarme aux différents partenaires financiers pour que ces derniers puissent aussi continuer à nous soutenir, à nous appuyer financièrement pour que nous puissions quand même venir encore assister cette population vulnérable de Kindu qui a vraiment un sérieux problème.
À quel mécanisme que vous avez mis en place pour faire le suivi de tout ce que vous avez donné, offert à la population de Kindu?
S'agissant d'abord des forages que nous avons construits, il y a 6 comités de gestion de bornes et fontaines qui ont été créés et formés sur une gestion rationnelle de ces bornes et fontaines après les projets. Et tous ces comités-là seront juste supervisés par la division des actions humanitaires à travers le professeur Dr Boni Wakenge. Et ces ouvrages, nous allons juste les remettre dans les mains de l'État parce que nous sommes des partenaires, nous sommes venus accompagner l'État congolais. C'est la division des actions humanitaires qui va s'en occuper et en même temps, les forages, chaque forage aura un comité de gestion.
Alors, pour assurer cette maintenance, peut-être ils peuvent commencer soit à demander à chaque ménage de payer 100 francs congolais ou 200 francs congolais la semaine ou le mois. Et cela, c'est juste quand il y a une panne et qu'ils puissent vraiment voir comment réparer cette panne. Mais en un mot comme à 1000 mots, et l'eau vraiment que nous avons donnée à la population de Kindu est gratuite. Ça, je le confirme.
Monsieur Alphonse Kabala, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Jacques-Yves Molima sous la supervision éditoriale de Pele Kipelamondo. Dieudonné Nyangasa a assuré la mise en onde et Grâce Amzati était à la présentation. Merci de nous avoir suivis.